Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yann Brossat, porte-parole du PCF, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Bonsoir.
Bonsoir.
Yann Brossat, on va d'abord parler des régionales, puis des départementales. Ensuite, en métropole, tous les présidents sortants ont été réélus, à droite comme à gauche, sur fond de forte abstention. À La Réunion, c'est la gauche qui l'a emporté face à la droite qui dirigeait cette région. Quel enseignement tirez-vous de ce scrutin ?
Je pense qu'on peut tirer un certain nombre d'enseignements de ce scrutin. D'abord, une très très forte abstention qui doit nous interroger parce que on ne peut pas banaliser le fait qu'à l'occasion d'élections régionales et départementales, on ait deux tiers des Français qui fassent la grève des urnes, qui ne se rendent pas aux urnes. Et donc c'est évidemment la première leçon à tirer. La seule vague au fond, c'est l'abstention. Et puis par ailleurs, je note deux choses. La première, c'est que La République En Marche se prend une claque monumentale, alors même que plus d'une quinzaine de ministres étaient engagés dans cette bataille, et d'autre part que le Rassemblement National fait une contre-performance, ce qui est une bonne nouvelle, parce que on a un Rassemblement National qui recule, et c'est une bonne chose pour notre pays. Voilà, et puis on a une gauche qui, vaille que vaille, résiste dans les territoires. Certains avaient prédit que la gauche disparaîtrait. La gauche n'a pas disparu du paysage politique français, elle a là un socle sur lequel elle doit travailler pour être à nouveau en mesure de conquérir le pouvoir à l'échelle nationale.
Yann Brossat, vous qui avez soutenu la liste d'Union de la gauche en Île-de-France, comment expliquez-vous le faible score de Julien Bayou au second tour ?
Je pense qu'il faudra regarder les résultats en Île-de-France de près. Ce que je constate, c'est que les reports entre le premier et le deuxième tour n'ont pas été excellents, parce que le total des voix de gauche au premier tour était autour de 34-35%, et qu'au deuxième tour, on est un peu en dessous, donc il faudra se demander ce qui fait qu'il n'y a pas eu de dynamique de second tour en Île-de-France. Je pense que lorsqu'on a une abstention très très importante, ce sont les catégories populaires qui s'abstiennent le plus. Et il ne peut pas y avoir de victoire de la gauche sans mobilisation de l'électorat populaire. Et là, je pense que la gauche a un certain nombre de questions à se poser. Est-ce que la campagne qui a été menée en Île-de-France s'adressait suffisamment aux habitants des quartiers populaires ? Je n'en suis pas totalement certain. En tout cas, les résultats d'hier tendent à montrer que l'électorat populaire ne s'est pas mobilisé pour faire en sorte que la gauche reconquiert cette région. Donc on a un travail à faire si on souhaite à nouveau, dans quelques années, que la gauche reconquiert la région capitale.
Alors la droite gagne 5 départements, la gauche a pris la Charente et les Côtes d'Armor, alors que le PCF perd son dernier bastion dans le Val-de-Marne. Que vous inspire la perte de ce département ? C'était celui de Georges Marchais.
Beaucoup de tristesse parce que les communistes du Val-de-Marne ont mené de très grandes politiques sociales, notamment sous la houlette de Christian Favier qui en est encore pour quelques jours son président. Il présidait aux destinées de ce département depuis une vingtaine d'années. C'est lui, par exemple, qui a permis la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées, des mesures tarifaires également pour les jeunes. Et de grandes politiques, notamment d'ailleurs l'arrivée du métro pour lequel il s'est beaucoup battu dans un certain nombre de territoires qui n'en disposaient pas. Et donc bien sûr, je vis cet échec très très douloureusement, non pas seulement pour le Parti communiste, mais pour les habitants du Val-de-Marne qui vont s'apercevoir ce que c'est que de perdre un département dirigé par un homme aussi remarquable que Christian Favier. Et je crains que la droite, lorsqu'elle aura les manettes dans quelques jours, ne remette en cause les nombreux acquis qui ont été mis en place. Et puis j'ai aussi une pensée toute particulière pour Christian Favier, qui est un homme très engagé, un homme sincère, un homme honnête, un homme intègre. Et je pense que en ce moment, alors même que il vient de subir un échec. Il faut avoir une pensée pour lui. En tout cas, moi, je lui garde toute mon admiration et toute mon affection. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de Val-de-Marne.
Et la Seine-Saint-Denis reste à gauche. Il y avait un véritable enjeu aussi sur ce département qui a été très fragilisé par le Covid.
Oui, c'est vrai. La Seine-Saint-Denis reste à gauche et tant mieux. La réalité, c'est que le département du Val-de-Marne est depuis de très nombreuses années plus serré dans son rapport de force avec la droite que la Seine-Saint-Denis, où la gauche est très installée depuis de très nombreuses années. Moi, je suis heureux que la gauche reste majoritaire en Seine-Saint-Denis parce que nous sommes dans une période où la crise sociale frappe très durement et où on a besoin d'équipes départementales, qui se battent pour la solidarité. L'action sociale, c'est une compétence départementale. Et donc, il faut s'imaginer la catastrophe qui aurait eu lieu si la droite avait fait main basse sur un département comme le 93 dans la période que nous traversons.
Yann Brossa, lors de l'entre-deux-tours des élections régionales, la droite francilienne a beaucoup attaqué la gauche en la qualifiant de gauche extrême, d'anti-républicaine, en faisant un parallèle entre l'extrême gauche et l'extrême droite. On a même vu l'ancien président de région socialiste refuser d'appeler à voter pour la liste de gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces accusations? Est-ce qu'il va en rester des traces? Est-ce que la gauche va avoir du mal à se défendre de ce type d'accusation lors des prochaines élections?
Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. La réalité, c'est que Mme Pécresse et la droite dans un certain nombre d'autres régions, en réalité, cherchent maintenant à faire la chasse aux électeurs du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'ils veulent banaliser le Rassemblement national, reprendre leurs électeurs et dans le même temps, symétriquement, d'une certaine manière, diaboliser la gauche. Mais il faut bien voir que cette stratégie, elle ne vise qu'à conquérir les électeurs du Rassemblement national en empruntant un discours assez similaire. Madame Pécresse a eu un discours qui, sur un certain nombre de sujets, s'approchait beaucoup du discours du Rassemblement national. Ce qui fait d'ailleurs qu'elle a siphonné les voix du Rassemblement national, comme Laurent Wauquiez d'ailleurs en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je pense que le procès qui a été instruit par la droite vis-à-vis de la gauche est un procès tout à fait scandaleux. Non, la réalité, c'est que c'est la droite qui a perdu sa boussole républicaine, que c'est la droite qui a choisi de braconner sur les terres du Rassemblement national, et nous n'avons aucune leçon de république à recevoir de Madame Pécresse et de ses amis.
Même si vous reconnaissez que de temps en temps, il y a pu y avoir quelques dérapages dans votre camp politique, je pense aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Mera, ce type de dérapage, ça risque d'être exploité politiquement par vos concurrents de droite.
Ah, mais il faut évidemment être très vigilant à ce qu'on dit. Cela dit, ça n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon a eu un propos malheureux ce jour-là qu'il n'est pas un républicain. En tout cas, pour ce qui concerne le Parti communiste, nous sommes très clairs sur ces sujets et je note heureusement que d'autres personnalités à droite sont un peu plus responsables que Mme Pécresse. Je pense notamment à ce que Xavier Bertrand a dit assez clairement la semaine dernière en disant que lui, lorsqu'il avait à choisir au deuxième tour entre le Rassemblement national et le Parti communiste, il choisissait le Parti communiste. Eh bien, voyez, Madame Pécresse, on ne l'a jamais entendu dire une chose pareille. Et je préfère ne pas connaître la réponse qu'elle apporterait à une telle question. Donc, je note qu'il y a, y compris à droite, sur ces sujets, un certain nombre de divergences. On le verra d'ailleurs sans doute dans les mois qui viennent lorsque la droite choisira son candidat à l'élection présidentielle.
Yann Brossa, vous avez noté avec satisfaction le fait que le Rassemblement national n'a gagné aucune région. Est-ce que pour autant cela signifie que le risque de voir Marine Le Pen qualifiée au second tour de l'élection présidentielle est écarté? Est-ce que la bataille culturelle de l'extrême droite qui semble avoir été gagnée ces dernières années, est-ce que cette bataille culturelle, vous pouvez à nouveau la gagner?
En tout cas, j'ai une grande satisfaction hier à noter effectivement que le Rassemblement national recule, à noter surtout, par exemple, que dans le bassin minier, dans le Pas-de-Calais, par exemple, ce sont des communistes qui terrassent le Rassemblement national dans le département de Mme Le Pen. Et nous gagnons de très nombreux cantons sur le Rassemblement national. Ça, pour moi, c'est une très, très grande satisfaction parce que ça montre que le travail de terrain des élus communistes qui se battent pour la défense des services publics, qui se battent pour le maintien de l'emploi, tout cela finit par être perçu par les électeurs. Et à l'inverse, les citoyens voient bien que les élus du Rassemblement national, eux, ne font rien. Ils braillent migrants, 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 matin, midi et soir, mais concrètement, ils ne font rien pour les populations à l'échelle locale. Ce que je souhaite, c'est effectivement que tout cela puisse se voir aussi à l'échelle nationale et que le Rassemblement national apparaisse pour ce qu'il est, c'est-à-dire des gens qui cherchent à exploiter les difficultés, mais qui ne cherchent pas à apporter des solutions, et qu'à l'inverse, du côté des communistes, on a des gens qui se battent concrètement pour améliorer la vie du plus grand nombre, et notamment de ceux qui veulent simplement vivre de leur travail. Ce sera évidemment l'un des enjeux de 2022 et de la campagne présidentielle.
Alors, vous êtes directeur de campagne de Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste français, qui sera candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi le PCF a-t-il décidé d'être à nouveau présent lors de l'élection présidentielle, puisqu'il s'était effacé lors des derniers scrutins ?
Tout simplement parce que nous considérons que nous avons des choses à dire dans cette élection qui ne seront pas dites par d'autres. Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que pour que la gauche retrouve des couleurs dans notre pays, et on en a besoin, il faut s'adresser à l'électorat populaire. Il faut reconquérir des électeurs qui sont soit tombés dans l'abstention, très nombreux, soit sont allés vers le Rassemblement national, et qu'on a besoin d'une gauche qui parle du travail, qui parle des salaires, qui parle du pouvoir d'achat, qui parle de tous ces problèmes de la vie quotidienne rencontrés par des millions de nos concitoyens. Et je pense que si la gauche a sombré ces dernières années, c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment parlé de ces sujets-là. Et donc la mission de Fabien Roussel dans cette campagne, c'est de remettre ces sujets au cœur de la campagne. Je sais qu'il a ça à cœur. Et en tout cas, c'est ce que nous souhaitons faire dans cette campagne, et je pense que c'est le meilleur service que nous puissions rendre à notre pays et à la gauche.
C'est donc pour laisser entendre une autre voix à gauche, ça n'est pas forcément pour remporter l'élection présidentielle. On sait qu'une campagne présidentielle, c'est une exposition médiatique très importante. Vous allez profiter de ce moment pour avancer des idées qui vous sont chères.
D'abord, oui, quand on est en campagne, c'est parce qu'on a des convictions, et je pense qu'on a besoin de responsables politiques qui ont des convictions et qui les portent. Et puis, vous savez, la pluralité de candidatures, par le passé, n'a pas empêché la gauche de gagner l'élection présidentielle. En 1981, lorsque François Mitterrand gagne l'élection présidentielle, au premier tour, il y a un candidat communiste, et il y a même quatre candidats supplémentaires à gauche.
Huguette, Bouchardot, Michel Crépeau, notamment.
Absolument. Le problème aujourd'hui, c'est que la gauche, globalement, est à un niveau trop faible. Si la gauche, de toute façon, tout candidat réuni, rassemble entre un électeur sur quatre et un électeur sur trois, quelle que soit la configuration, elle ne pourra pas gagner l'élection présidentielle. Donc l'enjeu avec la candidature de Fabien Roussel, c'est de conquérir des électeurs qui ne votent plus à gauche ou qui ne votent plus tout court. Et donc c'est le travail que nous voulons mener. Et quand je vois les résultats d'hier, notamment aux élections départementales, où nous réussissons à faire reculer le Rassemblement national sur des terres où il s'était implanté ces dernières années, ça me fait dire que c'est possible. C'est un travail de longue haleine, mais c'est possible, et c'est ce que nous voulons faire à l'échelle nationale.
Donc on va beaucoup parler de candidature, d'union, de stratégie pour 2022, mais pour vous, Yann Brossat, il faut surtout parler de projets et des préoccupations des Français.
Oui, je pense que le problème de la gauche aujourd'hui, c'est moins un problème de casting qu'un problème de scénario. Et je pense qu'il faut parler aux Français des solutions dont ils ont besoin pour que notre pays se relève. On vit quand même dans un pays qui est aujourd'hui la 5e ou la 6e puissance économique du monde et où on a 10 millions de pauvres. C'est ça la réalité, avec un accroissement inouï des inégalités, surtout depuis un an et depuis le Covid, avec le risque d'ailleurs de très nombreux plans sociaux à la rentrée. Remettons ces questions-là au cœur du débat, c'est ça la vie quotidienne des Français, plutôt que de s'enferrer parfois dans des débats qui n'ont ni queue ni tête. C'est ça la question principale, Et je pense que c'est sur ça que le débat doit se concentrer.
Il va, par exemple, falloir proposer des solutions audacieuses, créatives, innovantes pour faire face à la pénurie de logements, un sujet que vous connaissez bien.
Bien sûr, on a aujourd'hui une période qui est assez terrible du point de vue du logement, avec un record à la baisse du nombre de logements construits, c'est-à-dire qu'on n'a jamais construit aussi peu de logements qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on n'avait pas enregistré des chiffres aussi mauvais. Et donc on a besoin, par exemple, de relancer la construction de logements sociaux, la rénovation de nos logements, et c'est effectivement un sujet de vie quotidienne très 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 important en Île-de-France, mais aussi dans toute la France.
Un sujet qui vous est cher, je crois, l'ubérisation du travail et notamment les conditions de travail, les conditions de vie des livreurs. Déjà en 2017, la gauche dénonçait l'ubérisation du travail. Il va falloir réfléchir à la façon dont on rémunère les livreurs et la façon dont aussi ils peuvent profiter des acquis sociaux des salariés.
Et bien sûr, quand on voit le sort qui est réservé aujourd'hui aux coursiers, c'est une honte absolue, avec un faux statut d'auto-entrepreneur qui fait qu'ils sont privés de tous leurs droits, qui fait que si par exemple ils tombent malades ou s'ils se cassent une jambe à l'occasion d'un accident, ils n'ont aucune espèce de garantie. Et donc ça, effectivement, c'est un sujet auquel la gauche doit s'atteler, d'autant que de très nombreux jeunes, nous voyons notamment dans nos banlieues, commencent leur carrière professionnelle de cette manière-là. Et il y a d'autres pays qui, sur ce sujet, innovent. Il y a par exemple en Espagne une ministre du Travail communiste qui a mis en place un système qu'elle appelle une présomption de salariat, c'est-à-dire que ces auto-entrepreneurs sont considérés comme des salariés et du coup bénéficient de toutes les garanties propres au statut de salarié. Ce qui n'existe pas dans notre pays. Si l'Espagne est capable de le faire, nous devons être capables de le faire en France. Et donc oui, bien sûr, ça c'est un très très grand sujet pour la gauche. J'ajoute d'ailleurs que à l'échelle locale, nous allons créer à la rentrée prochaine, au mois de septembre, dans le 18e arrondissement, c'est une initiative de la municipalité et d'une élue qui s'appelle Barbara Gomez, un lieu dédié aux livreurs qui leur permettra de se reposer. C'est une première avancée, c'est ce que nous faisons à l'échelle municipale, même si la réalité c'est que ce sont les plateformes, les Uber Eats, les Deliveroo qui devraient normalement payer ce type de lieu. Comme elles ne le font pas, nous le faisons à leur place. Mais en tout cas, bien sûr, c'est un très très grand sujet parce qu'on atteint dans ce secteur des degrés d'exploitation qui sont proprement insupportables.
Merci Yann Brossat. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti communiste français, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.